France Inter. SOS Noël, Eva Rock.
Du haut de ses 14 ans, elle a demandé au Japon aussi, il célèbre Noël. Et pourquoi papy m'offre une orange chaque année? Elle a dit aussi, j'espère qu'on va acheter une bûche toute faite et éviter celle de ma grand-mère qui se prend pour un chef pâtissier, sous-entendu qu'elle n'est pas. Dans sa tête, Pauline a des questions par milliers, comme pourquoi est-on si excité en cette période de l'année et pourquoi j'ai peur d'être déçue de Noël? Pour les réponses, je compte sur nos invités et sur vous. SOS Noël débarque, semaine spéciale pour balayer les sujets qui nous amusent et nous agacent en cette période. Une heure avec vous donc, on attend vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000 sur WhatsApp au même numéro et sur la page de l'émission via l'application Radio France avec vos messages vocaux et écrits grâce au bouton Réagir. Cette émission est la vôtre et celle des enfants. Les enfants, si vous avez un message à faire passer au Père Noël, ben c'est le moment, appelez-nous, il paraît qu'il écoute France Inter.
France Inter, SOS Noël.
Noël, ça me fait penser au Père Noël, à la famille et aux cadeaux, ça part Noël, aux chocobons, Ferrero Rocher, plein de choses. Et la neige surtout.
C'était Colline, 9 ans, qui attend impatiemment le Père Noël et la neige et qui nous a laissé ce message sur l'application Radio France. N'hésitez pas à imiter Colline, car sans vous, pas d'émission. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. SOS Noël a une ambition, alors réconcilier ceux qui adorent cette période et ceux qui n'aiment guère ces fins de fin d'année. Réconciliation d'une heure avec des sourires, de la connaissance, des témoignages, de la musique et des sourires, ou une double dose. Et j'observe déjà avec joie celle de nos deux invités. Bonjour Alain Cabantous.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire à Paris, auteur notamment de Noël, une si longue histoire, coécrit avec François Walter et publié chez Payot. Alain, j'ai beaucoup de pourquoi, vous savez, un peu comme les enfants. Les auditeurs et auditrices sans doute aussi beaucoup, donc j'espère que vous avez prévu de passer la semaine ici avec nous. J'ai repéré un petit lit de camp.
J'ai si quelques parce que.
Vous avez quoi, j'espère aussi. Et à vos côtés, une académicienne, illustratrice, dessinatrice, auteure de bande dessinée, capable de provoquer des sourires, des larmes d'émotion et capable de titiller nos souvenirs d'enfance aussi à travers ses œuvres. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour Eva.
Catherine, vous qui êtes sensible au beau, à l'art, qu'est-ce que je fais de ce pull rouge et vert avec un renne, vous savez, au nez qui clignote? On le porte, on le jette, on l'offre, on ne l'achète jamais de notre vie.
Vous le donnez. J'allais dire vous le brûlez, mais non, vous le donnez. Non, il faut recycler, vous le donnez. Et puis vous mettez un pull, regardez, un pull Panthère des Neiges. Comme moi,
il est magnifique, votre pull Panthère des Neiges.
Voilà. Ouais. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de panthère, donc
c'est vrai.
Tout est dans mon pull.
Mais il est très beau, gardez-le surtout. Demain, nous évoquerons plus précisément la problématique des cadeaux, mais je conseille d'ores et déjà à nos auditeurs et auditrices d'offrir vos albums, tous sans exception, j'en cite que quelques-uns, hein. Mes hommes de lettres, Humaine trop humaine, Moderne Olympia, La légèreté, Delacroix, que j'aime tellement, enfin Delacroix et votre album aussi, hein. Les grands espaces, La jeune femme et la mer, mais il faut qu'on parle d'un dossier, Catherine Meurice, en 2015, vous me voyez arriver. Vous avez illustré un merveilleux recueil des chroniques d'Elsa Kayat, psychanalyste de métier, qui était autrice pour Charlie Hebdo, comme vous. Est-ce que vous vous souvenez du titre du livre en question?
Bien sûr, je l'ai même sous les yeux, je voulais apporter. Le titre, c'est « Noël, ça fait vraiment chier ».
Et est-ce que vous vous souvenez de votre dessin qui illustrait le premier chapitre éponyme?
Oui, je crois que c'est un dessin avec une dinde sur un divan. Alors, donc, Elsa était la psy de Charlie. Donc, elle a été tuée dans l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Et on a publié ce livre à quelques mois donc après sa mort en hommage. On avait des textes d'elle qui sont assez fabuleux. Elle était extrêmement drôle. Et aussi très profonde. Et donc les illustrations que j'ai faites avec émotion, parce que j'aimais beaucoup Elsa, bon, je les ai faites aussi en me souvenant de son rire tonitruant. Et donc tous les strips que j'ai faits sont un peu de cet acabit. Puis j'étais dessinatrice à Charlie à l'époque, donc bon, on y allait franco. Je prends des chemins détournés,
oui,
parce que
je n'ai
pas
bien,
du tout envie
bien.
De raconter ce strip.
Alors je dis-moi si vous
voulez. Sur un divan,
oui.
Mais il y a un mot, parce qu'il est tôt là sur France Inter. Bon, il faut imaginer que c'est vraiment une dinde sur un divan, une dinde,
oui.
Qui est déplumée. Voilà, qui est
elle est assez imposante.
Voilà, et une dinde, voilà, elle est imposante, et elle est sur le divan du psy, et la psy c'est Elsa. Et elle dit, je suis vraiment désolée.
Ouais,
et
elle dit, on le dit pas.
On le dit pas.
Je sais
mais
pas.
Non, ah, mais c'est
on
génial.
Le dit pas. Ouais, on le dit pas. Là, vous êtes obligé d'acheter le bouquin pour lire.
Exactement.
Mais elle a un petit problème, cette
dinde. Elle a un petit problème,
mais Elsa va trouver le.
Elsa répond à tout. Il y a des dessins pires que ça.
On est d'accord.
Noël, ça fait vraiment chier. C'est sur le divan de Charlie Hebdo.
C'est voilà. Le 10h11 qui est un peu gênant, si vous voulez. On ne peut pas vous dire tout. Mais vraiment, on vous le conseille. On a reçu un message très poli d'une auditrice, Catherine Meurice, qui, me semble-t-il, est assez révélateur de ce que pensent beaucoup de gens.
J'ai répondu à un questionnaire récemment et il y avait une question, c'était « Qu'est-ce qui te fatigue ou te pèse le plus en ce moment ?» Et j'ai répondu « Noël ». C'est un peu l'angoisse pour moi, tous ces préparatifs, les cadeaux à acheter, surtout quand on n'a pas d'idée, les chants de Noël qu'on entend sans arrêt. Mais bon, au final, je râle, mais une fois qu'on y est, je suis quand même contente d'être avec ma famille, qu'on soit réunis. Chaque année, je me dis que je vais essayer de faire autre chose, de partir, et puis finalement, je reste et je fête Noël.
N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire si vous aussi vous partagez cette ambivalence des sentiments exprimés par Anne qui habite à Nancy, le numéro 01 45 24 7000. Catherine Meurice, est-ce que pour vous c'est une période que vous aimez ou pas trop ?
Non, je déteste.
C'est pour ça qu'on vous a invité.
Je déteste, exactement. J'ai même pris sur moi un autre livre culte de Robert Benchley, que j'adore, un auteur américain qui date des années 20. Et le titre, c'est « Pourquoi je déteste Noël ». Je conseille aussi ce livre qui est extrêmement drôle. Non, j'ai aimé Noël enfant. On pourrait peut-être en parler. J'ai adoré ça.
Mais c'est ce que j'allais vous demander.
Je déteste.
Si aujourd'hui, vous deviez dessiner, je vais y arriver, le Noël de votre enfance, à quoi ressemblerait votre dessin ?
Ce serait un dessin, je dessinerai encore, je crois, à la nature, parce que le souvenir que j'ai grandi à la campagne, ça je le raconte dans mes livres, et le souvenir que j'ai, c'est surtout un souvenir d'aller se promener avant le jour de Noël, donc se promener dans la campagne pour aller récolter du fragon, du houx, du fusain, et vraiment regarder tout ce qu'il peut y avoir dans les bois qui pourrait servir à décorer une table. Y avait un sapin, évidemment, quand on était petite, j'ai une sœur, mais c'est vraiment ça, je me souviens de cette nature, cette campagne, l'hiver, j'adore ça, dans la brume, cette nature silencieuse. C'est plutôt
On va reparler de l'importance de la nature dans ces fêtes de Noël. Alain Cabantous, vous, quel goût possède le Noël de votre enfance ?
Un goût très amer.
C'est vrai aussi ?
Oui, pour des raisons très personnelles. Ma mère tenait un commerce qu'elle devait laisser ouvert jusqu'à 2h du matin.
Et donc pas de Noël.
Pas de fête de Noël, de nuit en tous les cas, éventuellement une fête de Noël le 25 décembre en famille, mais enfin, j'ai jamais eu de goût particulier, d'appétence pour cette fête. Mais ça, ce sont des raisons strictement personnelles que je n'ai jamais voulu retransmettre à mes enfants.
Voilà. Et avec qui vous fêtez Noël de façon joyeuse aujourd'hui ? Pas toujours non plus.
Ouais.
Mais je trouve que c'est assez important ce que vous dites, parce que je pense qu'on aura des messages des auditeurs dans ce sens-là aussi. C'est vrai qu'il y a un côté festif de ces 15 jours. Il y a aussi un côté surcharge mentale pour un grand nombre d'entre nous. Et puis, il y a aussi des gens qui ne fêtent pas Noël, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. Donc, on est là aussi pour être avec vous pendant cette période. On est en direct. C'est aussi l'avantage de la radio. Donc, vous pouvez nous appeler pour nous raconter tout ça, pour nous faire partager aussi vos joies, parce qu'on ne va pas rester quand même que dans la peine. On a envie de faire une émission festive avec des sourires. Mais voilà, on a parfaitement conscience aussi que tout le monde n'a pas la chance de faire... fêter ces fêtes de fin d'année, pas seulement Noël, ces fêtes de fin d'année pendant ces 15 jours. Alain Cabantous, avec l'équipe de SOS Noël, on s'est dit quand même qu'on avait envie de faire un peu les malins, vous savez, au moment des repas de famille ou entre amis. Donc, par exemple, pour répondre à Pauline, est-ce qu'on fête Noël au Japon ?
Oui, on fête Noël au Japon, mais c'est la fête des fiancés.
Ça s'appelle la fête des fiancés ?
Oui.
C'est quoi, l'équivalent de la Saint-Valentin, en fait,
Peut-être, oui. Ouais. Enfin, je n'ai pas vraiment creusé la question, mais en tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de saisie de cette fête dans un certain nombre de cultures qui n'ont pas de référence, enfin, comme les références occidentales chrétiennes, disons-le quand même. Il y a quand même un certain nombre de pays où on ne fête pas Noël du tout, c'est la Chine par exemple, sauf les chrétiens chinois, bien sûr, mais de manière assez anonyme.
Alors, d'où ma question absolument vertigineuse, et j'espère que vous allez pouvoir répondre en moins d'une heure, Alain Cabantous. Pourquoi le 25 décembre ?
Oh, mon Dieu ! Alors, je voudrais quand même dire trois choses qui sont à peu près sûres. La première, c'est que, quitte à casser la baraque, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est clair. Il est probablement né au printemps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on a dit pendant très longtemps et ce qu'on entend encore aujourd'hui, le Noël chrétien n'est pas une contre-fête par rapport aux fêtes païennes, enfin dites païennes, je veux dire, de l'époque. Et la troisième chose, c'est qu'on a dans le christianisme, on a fêté Noël très tardivement. Ce n'était pas une fête très importante. Et c'est ça qui est assez intéressant. Les premières manifestations, je dirais, des célébrations, c'est 354, c'est-à-dire le 4e siècle. C'est pas, Noël n'est pas un élément très important dans le christianisme. Alors, pourquoi le 25 décembre ? Alors là, il y a un très très grand nombre d'hypothèses. Une fois qu'on a dit ça, je suis prêt à y répondre, mais j'ai peur que ça soit à la fois fastidieux et un peu long.
Ça fait à peu près 100 pages dans votre livre, je le rappelle.
Écrit par François Walter, voilà. C'est lui qui a écrit ça. D'ailleurs.
Mais c'est absolument passionnant. Alors, vous expliquez bien aussi qu'il y a eu une sécularisation de cette fête. Pourquoi on a un peu l'impression, parfois, que c'est une fête bourgeoise. Est-ce que je me trompe en utilisant ce terme-là ?
Alors, le problème, c'est de savoir ce qu'on met derrière le mot bourgeois. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est une connotation sociale ? Est-ce que c'est une connotation culturelle ou socioculturelle ? Enfin bon, c'est un peu différent. Ce qu'il faut bien noter, c'est que Noël est resté, ou reste, une fête populaire. Je veux dire, quand je veux dire populaire, je veux dire partagé, c'est oui. Ça. C'est, bon. Mais il y a eu effectivement des inflexions, notamment à partir du début du 19e siècle et en particulier dans la culture germanique, pour faire de Noël une fête d'abord de la famille et de l'enfant, et pas une fête collective, etc. Oui. Et donc cette fête de la famille et de l'enfant s'est repliée dans l'espace domestique. Et dans cet espace domestique, il y avait des chants, des prières, un repas, des cadeaux. Mais ça, c'était à l'intérieur d'une catégorie ou d'un ensemble social qu'on appelle, enfin, pour faire court, la bourgeoisie. Voilà.
D'accord. On a eu la réponse à cette question. Vous voyez qu'il n'y a pas que des parce que vous avez aussi des réponses exactes et précises. Je voudrais qu'on donne la parole à notre première auditrice, Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous inaugurez cette semaine spéciale avec nous. On est très heureux de vous recevoir sur l'antenne de France Inter. Céline, c'est votre, vous avez retrouvé goût à Noël, si j'ai bien compris ?
Oui, en fait, quand mes enfants étaient petits, bien, on fêtait Noël et puis c'était surtout le casse-tête de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on achète, on achète trop, enfin, on se posait mille questions, enfin, surtout moi. Et puis finalement, à partir de 11 ans, ma fille a eu des troubles de la santé mentale qui l'ont amenée à l'hôpital, à Robert Debré à Paris.
Oui.
Et ce Noël-là, on ne pouvait pas l'avoir. Ah. On a eu l'autorisation d'avoir 5 minutes avec son frère dans le couloir, devant l'unité où elle était. Et puis, depuis, donc on a été très sensibilisés, pardon, je suis désolée.
Non, mais il n'y a pas de souci. On comprend votre émotion, oui.
Oui, très sensibilisée au fait que certains enfants ne peuvent pas être accompagnés pour Noël, sauf du personnel médical. Et puis du coup, depuis, comme tout va mieux, je retrouve, c'est très important pour moi de que la famille soit en bonne santé, réunie, et c'est cet aspect-là de Noël qui me plaît.
Bah oui, voilà. Vous êtes, j'imagine, vous êtes tous ensemble et ça fait plaisir. Je profite de votre témoignage, Céline, pour dire aussi qu'il y a un grand nombre d'associations qui viennent pour s'occuper à la fois des enfants, des ados, mais aussi des patients qui sont adultes, qui sont hospitalisés à l'hôpital. Et ils font un boulot absolument formidable. Je pense qu'on va reparler de solidarité, notamment grâce à vous, Catherine Meurice. Ce sera dans un instant, dans la suite de cette émission. Mais on vous remercie infiniment, Céline, d'avoir ouvert le standard de cette émission avec beaucoup d'émotion. Bon, vous avez un peu fait pleurer tout le monde, mais on est quand même avec vous. On vous embrasse très fort et puis on vous souhaite de joyeuses fêtes en famille avec vos enfants, bien évidemment. En tout cas, sapin, guirlande, chant, dinde, famille, pendant 15 jours, on les conjugue, ces mots, ou pas d'ailleurs. SOS Noël vous offre une sorte de guide de survie dans cette jungle de fin d'année. Esprit de Noël, es-tu là ? Si oui, clique sur le bouton droit et la voix de Bon Jaillard retentira.
Am I in competition? Am I off best position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more. 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 Give me your full attention, don't leave me alone. Waiting on you to come.
Par le chanteur nigérian Obong Jayar, vous écoutez France Inter.
France Inter, SOS Noël.
Il n'y a rien qui justifie non plus que TF1 diffuse son premier téléfilm de Noël le 13 octobre. Le 13 octobre, il faisait 20 degrés. Il y avait des gens qui jouaient à la pétanque au jardin des Tuileries et au même moment, à Snowberry Falls, Stacy retrouvait son amour de jeunesse, un charpentier veuf du nom de Ethan, et parvenait à le reconquérir grâce à la magie de Noël et à la puissance de la cannelle dans l'amour en pain d'épices. C'est insensé!
Un sketch de Yann Marguet dans l'émission Quotidien sur TMC. Vous écoutez SOS Noël, nous sommes en direct sur France Inter. Toute la semaine, on vous attend au standard 01 45 24 7000 sur WhatsApp, au même numéro sur l'application Radio France. Vous pouvez laisser autant des messages écrits que vocaux pour évoquer tous les sujets qui nous enthousiasment ou nous fatiguent au moment des fêtes. Vous êtes très nombreux déjà à réagir, mais il faut qu'on s'arrête, Catherine Meurice et Alain Cabantos, sur ces fameux téléfilms de Noël devant lesquels on s'endort très facilement, on peut le dire. Ça sent bon la guimauve, vous savez, ça nécessite un peu un plaid, des chaussettes bien chaudes et un brin de second degré. J'ai retenu quelques titres de ces fameux téléfilms. Je n'invente rien. Bon, Noël sous les sapins. Bon, ça c'est classique. Un rendez-vous parfait pour Noël. Bon, le vignoble de Noël. J'aime beaucoup celui-là. Coup de foudre céleste pour Noël et la babysitter de Noël. Oui, la babysitter va tomber amoureuse. Mais de qui? Je ne vous le dis pas. Alain Cabantos, je sais que vous êtes historien, mais vous avez une réponse à cette question. Pourquoi des films et des téléfilms autant à Noël?
Ben c'est pour entretenir, je pense, oui. Hein, c'est pour entretenir l'ambiance depuis longtemps, parce qu'effectivement, ces téléfilms ne sont pas diffusés simplement entre le 20 décembre et le 25 décembre. Et en général, la structure du scénario est toujours la même.
Toujours, oui,
toujours
c'est
la
vrai.
Même, c'est-à-dire qu'on est dans un espace familial assez douillet, déjà très, très, très décoré. Si on peut, il y a de la neige. Bon, ça, c'est pas assuré. Et puis, il y a une intrigue dont on connaît la fin dès le début. Donc, il n'y a aucune surprise, oui. Mais en même temps, on fixe les images et autrement dit, on les entretient. Voilà. Et il n'y a pas d'autre recours.
Ouais. Catherine Meurice, vous êtes friande de ce genre de téléfilm?
Et pas du tout, non, je ne regarde pas les téléfilms.
Mais est-ce que vous avez des souvenirs d'épisodes de Noël dans les séries qu'on aime? Ça vous dit rien,
non,
ça?
Non, mais non, pas du tout.
Je vais vous faire écouter. J'en ai retenu que trois. Alors, comme je suis une vieille personne, j'ai pris que des séries qui datent un peu. Alors, à savoir Ally McBeal, Glee et Friends, et ça donne ça. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. And rough. Got my halo on, I know. Oui, je vous l'ai mis en version française comme I'm France parce que c'était plus drôle. Catherine Maurice, on constate quand même que c'est une période, en tout cas je trouve, qui est propice aux histoires. Alors celles qu'on raconte aux enfants, celles qu'on se raconte entre familles, alors on en reparlera pendant les repas de famille, ce sera l'émission de mercredi. Est-ce que pour vous, c'est un moment qui est propice à l'inspiration ou pas du tout ?
Alors si je m'isole, oui, je...
ouais. Comme vous faites en ce moment d'ailleurs, vous avez pris, vous êtes venu nous voir, mais je sais que vous êtes en pleine création en ce moment.
Oui, c'est ça, je suis dans ma grotte, je conseille à tout le monde qui n'aime pas Noël de louer une grotte à cette période, vérifier qu'elle est inhabitée déjà, de pas... il ne faudrait pas qu'il y ait un ours dedans. Mais... Non, propice à l'inspiration, non, je dirais au contraire, on est tellement matraqués par la publicité, on nous demande tellement d'acheter, de consommer à cette période-là, que non, c'est quelque chose, c'est une période qui vient au contraire tuer, enfin, là je parle en ce qui me concerne, qui vient tuer la créativité, les idées, et justement il faut pouvoir y échapper pour retrouver sauvegarder son imaginaire et son esprit créatif, quoi.
Donc là vous vous isolez en ce moment pour créer?
Ça dépend des moments. Je m'isole pour trouver les idées, je m'isole pour dessiner, puis j'arrive à être en société aussi quand même. Mais là, je partage un atelier avec deux autres dessinateurs et j'avance ma bande dessinée comme ça, entourée de d'autres dessinateurs.
Je ne connais pas tous vos livres jeunesse, je le concède volontiers. Est-ce que vous avez représenté Noël dans un des livres jeunesse que vous avez illustré? Ça vous rappelle quelque chose ou pas?
C'est probable.
J'en ai fait beaucoup.
Oui, ça paraît très prétentieux, mais pas du tout. C'est que j'étais jeune et j'étais illustratrice, et quand on est illustrateur, qu'on démarre, on illustre souvent beaucoup de bouquins dont on n'est pas l'auteur. Et alors,
ça vous revient pas forcément.
J'ai dû forcément dessiner des choses rouges et blanches et vertes, sapins, etc. Mais là, ça me revient pas.
Mais on a compris, Catherine Maurice. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'album que vous êtes en train de réaliser ou pas du tout?
Alors ça va être une comédie sur comment dire, est-ce que je peux le dire maintenant? Je crois pas, pas encore, elle sort en septembre 2026. Donc
mais c'est une comédie.
C'est une comédie, ça parlera de nature, enfin du vivant, mais avec humour, voilà.
55, c'est le chiffre du jour, on va essayer d'en avoir un tous les jours. 55% des Français, selon une enquête de l'IFOP parue il y a un an, estiment que posséder un sapin de Noël est incontournable pour fêter ces événements. Alain Cabantous, question très simple, hein. Pourquoi un sapin?
Alors ça, c'est une tradition qui est plutôt germanique, initialement. C'est-à-dire que le sapin, ça représente... Alors, il y a une symbolique, évidemment, derrière, symbolique religieuse aussi. Hein, le sapin, c'est l'arbre entre le ciel et la terre. C'est l'arbre toujours vert, comme le Christ est toujours vivant. Bon, il y a comme ça. Et en même temps, c'est un arbre qui a été utilisé dans l'espace public assez tôt, probablement... 14e, 15e siècle, et notamment, quand je dis espace public, je parle des églises, hein, bien sûr, et où on décorait ce sapin. C'est-à-dire qu'on y mettait des hosties non consacrées, des petits bouts de prière sur des papiers, voire même des pommes.
Des pommes, oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Des
oui.
pommes qui rappelaient, soi-disant, l'arbre de la connaissance où il n'y a jamais de pommier dans la Bible, enfin, peu importe. Et progressivement, c'est quelque chose qui s'est développé, à travers une partie de l'Europe, en tous les cas, mais qui n'a pas été généralisé pendant très longtemps. Il y a des régions qui ignoraient complètement le sapin, et des régions françaises, des régions d'Italie, des régions d'Espagne, voilà, on parlait pas de sapin, et c'est surtout après les années, en gros, 1945-1950, donc après la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a une forme d'explosion du sapin qui est devenu un élément quasiment fondamental. D'où la vente des sapins qui explose à ce moment-là.
Avec une question écologique qui se pose régulièrement. Je sais qu'on a beaucoup de messages dans ce sens-là. On en a parfaitement conscience.
Ah oui.
Catherine Maurice, je ne sais pas si vous êtes adepte du sapin ou au contraire, justement, vous faites attention à ce genre de choses, à ne pas prendre de sapin, à ne pas acheter de sapin, à faire attention aux cadeaux, à ne pas acheter trop de cadeaux non plus.
Ah oui, ouais. Complètement. Concernant le sapin, alors là, depuis que je suis adulte, j'en fais plus du tout. tout. Il m'est arrivé de faire un ficus de Noël il y a quelques années, mais non, quand j'étais enfant et qu'on fêtait vraiment Noël, le sapin, c'était un sapin avec des racines qu'on allait planter une fois les fêtes passées, qu'on allait replanter dans le jardin. Et donc quand je retourne chez mes parents, voilà, j'y retourne pour les fêtes et qu'on se balade dans le pré, on peut dire, on regarde les sapins, on regarde la haie, on dit, ah ben ça c'était Noël 1988, ah ben ça c'était Noël 1992.
Ah, c'est génial.
Voilà.
Ouais.
Et parfois aussi, mes parents taillent les arbres, taillent les douglas, les sapins, etc. Et on posait de grandes branches de sapins et qu'on décorait. Donc c'est un Noël durable chez les mûristes.
Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ces questions. Je voudrais qu'on donne la parole à Simon. Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir appelé au standard de France Inter. Comment vous percevez cette période de fin d'année et de Noël en particulier ?
Très bien, je vous remercie.
Oui.
j'ai hâte de retrouver toute la famille, les bons plats des grands-mères.
Oui. Et vous avez, est-ce que cette question climatique, elle vous concerne ? Vous vous sentez concerné par ça ou pas ?
Oui, beaucoup. Après, malgré que les fêtes se passent extrêmement bien, c'est toujours une grande joie de revoir tout le monde,
d'être ensemble. Ouais.
Oui, voilà, d'être ensemble, de bien manger. J'ai la chance d'avoir des grands-mères qui arrivent à regrouper toute la famille chaque année. Mais je passe quand même chaque fête avec toujours le malaise de se rendre compte qu'on ne parle pas suffisamment des gros problèmes.
C'est-à-dire ?
Bon, c'est aussi bien, je pense, des problèmes climatiques, des problèmes sociaux. Malgré qu'on en ait tous un peu conscience, mais...
Oui, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que c'est un peu une parenthèse, ces fêtes de fin d'année où les sujets s'effacent alors qu'ils sont bien présents. Mais j'ai l'impression quand même, voilà, on racontait le saumon, pardon, c'est parce que j'ai lu un papier sur le saumon juste avant d'entrer dans le studio qui m'a marqué, mais parce qu'on en parle beaucoup aussi de la consommation et de la surconsommation de saumon, mais cette histoire de sapin aussi, voilà, il y a une conscience écologique quand même qui vient nourrir nos réflexions sur Noël. Merci infiniment Simon de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer évidemment au standard ou via l'application de Radio France. Alain Cabantous, on parlait donc du sapin. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi la bûche ? Est-ce que ça a un rapport avec le sapin, cette histoire de bûche ?
Alors la bûche n'a pas de rapport avec le sapin. La bûche, c'est lié à une tradition très ancienne qu'on trouve par exemple en Italie au XIIIe siècle déjà, où il faut raviver le foyer, le feu du foyer. Et donc, pour raviver le feu du foyer, la famille choisit une bûche dans un arbre très particulier, enfin ça peut varier suivant les régions, et là il y a une célébration autour de la bûche, une célébration familiale, où on va essayer de développer la force de la bûche en versant soit du vin, soit de l'huile, et ensuite le plus jeune et le plus vieux de la famille vont mettre la bûche dans le foyer, et cette bûche va devoir brûler pendant la nuit de Noël, au moins pendant la messe de minuit. Pourquoi ? Parce qu'après on récupère les cendres et ces cendres ont évidemment une valeur prophylactique, une valeur protectrice, etc. On va les balancer dans les champs pour qu'il y ait davantage de récolte, etc., etc. Et donc, ça existe aussi en France, bien sûr. Hein, par exemple, en Provence, dans tout le sud de la France, parfois on tape la bûche pour que, par exemple, on fasse sortir des bonbons. Enfin, voilà, il y a un lien entre les deux. Et donc, cette tradition de la bûche va décliner, va disparaître progressivement, et elle va être peu à peu remplacée par la bûche gâteau.
La bûche gâteau, oui.
La bûche gâteau qu'on voit se développer dès les années 1880. Il y a des premières recettes en France des bûches gâteau dans les livres de cuisine des années 1890.
Voilà, alors si vous êtes en train de préparer déjà votre réveillon, vous savez d'où vient cette origine de la bûche. On va continuer à parler de tout ça. L'esprit de Noël souffle souvent sur la musique américaine. Vous savez que les plus grandes stars continuent encore aujourd'hui d'enregistrer ces fameux albums de Noël. En 1958, Brenda Lee était l'une d'entre elles.
Hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some
house of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Brindali et Rocking Around the Christmas Tree, titre judicieusement choisi par Juliette L'Orphelin.
France Inter. SOS Noël. Eva Rock.
J'adore les chants de Noël dans des langues étrangères. J'ai pas mal de disques parce que j'écoute encore des disques en CD, oui, à l'ancienne. Et j'ai plein de disques en tchèque, en polonais, en italien, en russe, en islandais aussi. Ah ouais, il y a un frère et une sœur islandais, je les adore, ils sont tous les deux tout seuls avec une guitare. C'est trop beau.
Likes to all lofty solely, love since call my only. Fat no me free or Mesnio.
Bienvenue dans SOS Noël en islandais, vous avez vu, semaine spéciale sur France Inter, en direct pour aborder les sujets qui nous animent et qui nous fâchent quand il est question de ces fêtes de fin d'année. Je vous rappelle le numéro du standard 01 45 24 7000. Est-ce que vous êtes très esprit de Noël ou cette période vous fatigue d'avance? Les enfants, on attend aussi vos questions, vos messages au Père Noël. Vous pouvez nous appeler et deux invités nous accompagnent ce matin, l'historien Alain Cabantous et la dessinatrice et autrice Catherine Meurice. On a beaucoup de messages, alors... Évidemment, des messages qui râlent un peu contre Noël, mais ça, on le fait depuis le début. Mais aussi des messages qui adorent Noël. Roland nous dit « Bonjour, j'ai 58 ans et je crois toujours au Père Noël. Est-ce si grave? Je crois toujours en cette magie du moment ou de l'événement, plus communément dit cadeau providentiel, qui arrive au bon moment et encore mieux à Noël. » Babette, elle nous dit « Moi, j'ai la nostalgie des jolis contes de Noël. Elle a 65 ans. » Bah oui, parce qu'on peut continuer à lire des contes de Noël, évidemment, à tous les âges. On est bien d'accord, Catherine Meurice, là, vous pouvez pas me dire non. Les contes, c'est pour toujours.
Oui. Oui, bien sûr.
Les histoires, c'est tout le temps comme ça. Vous venez d'entendre la voix de Mathilde Munoz qui présente la petite matinale de 5h à 7h tous les matins sur France Inter. Alors Mathilde, c'est l'esprit de Noël, c'est-à-dire que son appartement condense à peu près toutes les décorations et illuminations de l'Île-de-France. Elle adore faire des cadeaux et elle adore les chants de Noël. Alors Alain Cabantous, pourquoi des chants de Noël? Grâce à vous, j'ai découvert que Noël était une fête très bruyante. Et je ne parle pas seulement des cris des enfants.
Jadis, oui. Écoutez, les chants de Noël, d'abord, ça se rapporte à l'évangile de Luc, hein, où les anges chantent devant les bergers. Et donc ça, c'est une espèce de tradition qui va se développer et qui va, construire les mystères qu'on va jouer au moment de Noël, où il y a toujours des chants. Mais ce n'est que peu à peu, quand je dis peu à peu, vous allez dire c'est assez approximatif, mais enfin on ne peut pas dire autre chose, à partir du XIVe et du XVe siècle, il va y avoir de véritables chants liés à Noël, disons, à la naissance de Jésus, et donc avec tout ce que les évangiles apocryphes ont apporté, c'est-à-dire des trucs assez plus ou moins bizarres, mais enfin peu importe, et ces chants vont s'appuyer sur des airs connus. Autrement dit, des chansons assez connues, on y met des paroles. Et progressivement, il va y avoir ensuite des chants spécifiques à Noël. Et bon, on connaît tous, qu'on soit croyant ou pas. Il est né le divin enfant, oui. 1711, encore, enfin, 1821, pardon, excusez-moi. Venu divin Messie, 1711. Et puis, minuit chrétien, alors, écrit quand même par un républicain anticlérical. Et comme disait méchamment l'antisémite Vincent Dindy, et dont la musique est d'Antoine Adam, qui ne croit à rien, même pas à sa musique.
Ah bah voilà.
Donc, voilà.
Esprit de Noël, es-tu là?
Voilà, non mais c'est ça. Donc, et les Anglais vont reprendre ça. à partir des années 1820-1830, les Christmas Carols vont se développer de manière assez importante dans les villes anglaises. Et chacun sait, quand on va à l'époque, au moment de Noël, dans les villes anglaises, il y a des groupes qui chantent, enfin, etc.
On le voit beaucoup, on le voit beaucoup dans les rues.
Beaucoup oui. plus qu'en France.
Oui, tout
beaucoup,
à fait.
Voilà.
Oui, alors, et d'ailleurs, on les voit beaucoup dans les téléfilms et les séries américaines et les fictions américaines. Vous avez ces enfants qui chantent dans les rues, enfin, ces chorales qui chantent dans les rues, et puis aussi la quête, les gens avec ces actes de solidarité qui se multiplient. Voilà. Catherine Meurice, j'en profite, parce qu'on parle de solidarité. Je donne deux idées de cadeaux, grâce à vous, parce que vous avez réalisé la couverture de deux ouvrages collectifs. L'espoir fait rire, c'est un recueil de dessins d'humour dont les bénéfices sont reversés au Secours Populaire, et Très à table, donc on a l'habitude maintenant de Très à table aux éditions Pocket, hein, c'est un petit recueil de nouvelles dont la vente de chaque exemplaire permet de distribuer 5 repas au Resto du Cœur. Je crois que c'était très important pour vous de participer à ces deux ouvrages.
Ah oui, vraiment, c'était évident. Je suis très heureuse de travailler avec les Restos du Cœur. Donc Très à table, c'est le petit livre chez Pocket coûte 6 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça permet, comme vous l'avez dit, de distribuer 5 repas. Donc je conseille vraiment à tout le monde de glisser ce... Voilà, si tous les auditeurs là achètent ce livre, ça va faire beaucoup.
Et comme vous êtes à peu près 3 millions à nous écouter, voilà, ça fait beaucoup de monde.
Ouais, donc c'est un petit cadeau facile à faire et qui est extrêmement utile. Et là, on fêtait un anniversaire, donc on m'avait demandé de représenter Coluche, qui est bien sûr le créateur des restos. Et voilà, et je l'ai fait en train de... Vous savez, Coluche, il jouait du violon avec ses
grandes boxes.
Et là, je le fais en train de... Le violon est devenu une sorte de rôti qu'il est en train de scier avec son archet, voilà, pour une distribution de viande pour tout le monde. Et l'autre livre, L'Espoir fait rire, c'est donc au bénéfice du Secours Populaire. C'est publié chez Glénat, donc tout est reversé au Secours Populaire. C'est sur une idée de la dessinatrice Camille Bess, qui elle-même est bénévole au Secours Pop. Et c'était pour célébrer les 80 ans d'action solidaire organisée par le Secours Populaire. C'est un recueil, c'est un petit livre aussi, pas très cher, je crois que c'est 13 euros. C'est un recueil de dessins d'humour, de dessins de presse, et c'est super. Dedans, il y a Aurel, Babouze, Bess, Gros, Chapat, Malingret, Soulcier, etc. Et ce sont des dessins d'actu, très marrant. Là aussi, c'est vraiment un cadeau génial à faire. Et voilà, j'ai fait la couverture. C'est le... Voilà, je peux le décrire. C'est le symbole. Vous savez, le symbole du Secours Populaire, c'est deux petites ailes comme ça, avec une grande main. Et ben là, c'est cette grande main qui gifle la misère. Bon, voilà, c'est toujours difficile de décrire un dessin, mais je vous invite à regarder la couverture et d'acheter ce livre.
On en conseille évidemment à tout le monde d'acheter. C'est vraiment le... D'abord, on adore offrir des bouquins. On le sait, hein, à Noël, c'est vraiment le cadeau. J'allais dire facile, pas forcément facile, parce qu'on aime bien choisir. On parlera des cadeaux d'ailleurs demain. Mais vraiment, allez-y. Voilà. Et puis, on met aussi tous vos albums sous le sapin et le livre d'Alain Cabantous. Voilà. Exactement. Je voudrais qu'on donne la parole à Marc-Henri, qui nous attend depuis un petit moment au standard. Pardon Marc-Henri, on vous a fait patienter. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors comment vous ressentez-vous cette phase de fête?
Pour moi, à contrario, ce n'est pas du tout une période de stress.
Vous aimez bien ça?
Moi, j'adore faire ça, les traditions, quoi, les gâteaux à la cannelle, le pain d'épices, les repas un peu plus riches, mais pas non plus... Pantagruélesque. Je reviens sur l'histoire du sapin. Oui, j'ai un sapin très décoré, mais je ne fais pas venir de fruits de l'autre bout du monde ou de légumes exotiques. Nous essayons de rester dans une tradition ancestrale, quoi, dans ce que nous faisons à Noël, et le plaisir de faire des petits cadeaux, de remplir un calendrier de l'Avent tous les jours en cherchant un petit cadeau à moins de 2 euros, puisque c'est le défi.
Ah, c'est sympa, ça. Vous faites en famille.
À la maison.
D'accord.
Oui, voilà, ouais. Le 24, tout le monde met son pull de Noël moche.
Il ressemble
et
à quoi?
Le 25, tout le monde met sa belle tenue et on fait un repas habillé, voilà.
Mais Marc-Henri, j'ai besoin de savoir, il ressemble à quoi votre pull moche du 24 décembre?
Il est moche.
Il est moche. Est-ce qu'il y a un truc qui clignote ou pas? Parce que j'adore les...
Oui.
Ah ouais, il clignote aussi.
Il clignote, ouais,
ah ouais,
ouais,
d'accord,
ouais,
ok.
Ouais. Et devant chez moi, j'ai un Père Noël qu'on a fabriqué avec des boules de récupération.
Ah, voilà. Mais ça, c'est vachement bien. Vous l'avez fait avec vos enfants?
Oui, avec mon fils, oui.
D'accord. Et je peux vous demander votre âge, à vous et à votre fils?
Alors, moi, j'ai 58 ans et mon fils a 29 ans.
D'accord. Et il adore faire encore des Pères Noël avec des boules récupérées avec son papa?
C'est ça.
Et
puis d'autres conneries aussi. Hein. On tresse des guirlandes de lierre, la fameuse guirlande de Julie. Tous les ans, on fait la guirlande de Julie aussi. On a quelques traditions comme ça, la couronne de porte, voilà. Et c'est quand même un événement, c'est une trêve, on appelait ça la trêve des confiseurs, et c'est une espèce de trêve. On passe toute l'année aussi à s'occuper des gens qui sont dans le besoin autour de nous, à faire attention à ce qu'on fait au niveau écologique, ouais. On essaye d'être éco-responsable, de pas trop prendre l'avion, de pas consommer des produits qui viennent trop loin ou trop mal cultivés. Et là, c'est une période où on se fait un peu plaisir tout en restant raisonnable, bien sûr, mais où on se fait plaisir.
Alors
c'est vrai, on surconsomme un peu, mais ouais. Voilà.
Vous avez dit un truc très important en parlant de la trêve des confiseurs. Je suis obligée de me retourner vers Alain Cabantous pour nous expliquer ce que c'est. Je vous remercie beaucoup, Marc-Henri, d'avoir appelé au standard de France Inter. Vous pouvez continuer jusqu'à 11h, 01 45 24 7000. Alain Cabantous, c'est quoi cette trêve des confiseurs?
Alors, la trêve des confiseurs, ça c'est typiquement français, si je me souviens bien. C'est en 1875, un journal satirique qui a décrété qu'il fallait une trêve des confiseurs entre les députés qui étaient en train de décrire la constitution de la Troisième République et qui ne s'entendaient pas du tout.
J'espère qu'ils nous écoutent pendant que vous dites ça.
Et non, donc, du coup, ce journal satirique a dit bon, il faudrait peut-être faire une trêve entre Noël et le jour de l'an pour que les esprits se calment et, autrement dit... L'appeler la trêve des confiseurs, c'est intéressant parce que ça renvoie évidemment au dessert, ça renvoie au gâteau, ça renvoie à tout ça. Autrement dit, ça renvoie à la nourriture quand même.
Oui, quand même, toujours, voilà. Hein, au curry. Oui, au curry aussi. Catherine Brice, le goût de votre enfant, du Noël de votre enfance, c'est quoi? Ce que je demandais à Alain Cabantous en début d'émission, mais vous?
Ah, le goût, vraiment, du point de vue culinaire?
Oui, tout à fait.
Eh bien, c'est la bûche au chocolat que ma mère fait encore aujourd'hui, oui. Et qui est très bonne, qui n'est pas la bûche de la grand-mère, je crois, de l'auditrice,
oui.
L'auditeur de tout à l'heure. On prépare le biscuit. Enfin, elle prépare, c'est elle qui doit le faire, etc. Le biscuit avant, etc. C'est tout un truc. Et elle est très simple et très bonne. Et sinon, ce sont des... Enfin oui, c'est essentiellement ça. Ouais.
Après, essentiellement
ça
la bûche.
Des fruits, des choses des choses de saison. Quoi.
Oui, ouais. Nous, alors, c'était les 13 desserts dans le sud, mais les 13 desserts, on ne les fait pas partout, avec la fameuse fougasse, voilà, que j'adore. Je voudrais qu'on donne la parole à Marie aussi, qui vient de nous appeler. Bonjour Marie.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Merci. Oh là, vous avez une voix enjouée. Vous êtes adepte, oui. Vous êtes adepte de Noël, je le sens.
Déjà, j'ai été très touchée par votre première auditrice. Donc
oui,
je voulais faire
on a tous été.
Voilà. C'est ça, c'est de l'émotion, c'est de l'humain, c'est du partage. Et c'est aussi pour ça que j'appelle, parce que dans cette débauche un peu consommatrice, bien sûr, il y a l'aspect l'esprit de Noël, mais il y a aussi les cadeaux et ce que ça signifie. Et donc nous, à la maison, en famille, ça fait plusieurs années qu'on organise, pas pour Noël, mais on appelle ça la galette salée, aussi parce qu'on n'en peut plus de la frangipane lors de la galette des rois. Et donc, on organise une galette salée, on invite tous nos amis, et ça s'appelle le grand troc de Noël. L'idée, c'est pas de passer le côté « je revends mon cadeau sur le bon coin » ou « je donne ce que j'ai pas voulu à Noël ». C'est plutôt de partager des objets qui ont une histoire à travers chacun. Et lors de ce grand moment de partage, eh ben, on échange ensemble des objets autour du
cri,
juste du bonheur d'être ensemble. Voilà.
Ouais.
Et la galette est salée parce que no more frangipane.
Ça, on l'a bien compris. Mais c'est génial. Le troc de l'amitié, quoi, en fait, hein, en quelque sorte. C'est ça, hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve qu'on devrait... Enfin, après, chacun fait... Mais si vous voulez, moi, je suis artiste, donc je suis plasticienne, je suis adepte des objets qui ont une mémoire. Je glane, je chine, je trouve dans la rue, dans les poubelles, partout. Et aussi, je suis une...
Ah ben on vous a perdu, on a perdu Marie. Ah ben on la remercie beaucoup, on va rester sur cette idée de troc, de l'amitié, moi que je trouve géniale. Catherine Meurice, on va écouter un disque. Pendant le disque, est-ce que vous voulez bien penser à l'objet que vous pourriez offrir dans ce troc de l'amitié? Et vous aussi Alain Cabantous. Je vous donne un peu de temps, je vous donne quelques minutes. Ce premier SOS Noël est sur le point de s'achever, mais avant, Aya Nakamura débarque sur France Inter.
Ton avis, j'en fais mon goûter. J'ai pas vibré dans cette aventure. Non. Quand je voulais, tu faisais de l'indisco. Tu continues en vrai, t'as tout gâché. J'attends pas de toi ton autorisation. Qu'est-ce que tu racontes entre nous, je coupe le réseau. Garde la même énergie. S'il te plaît, oui, cette énergie. Mon mec ou mon ennemi. D'après tes actes, mon ennemi. Je me rappelle quand tu bombais avec moi. Je le constate, je dormais avec le diable. Tu te rends compte que maintenant j'ai trop d'aura. Je n'ai pas la langue dans ma bouche. Oh,
right. I don't feel like you know how to love again, but I don't doubt you. I stick around just for you. No matter what you say, I'll do. Look at all the things I do. I give you loyalty and that's my truth. But it's never enough for you. Now baby, who hurt you? Who hurt you? Don't forget that I've been hurt too. What's the reason why you can't keep love? Got you believing everything sees up. Who hurt you? Hurt you? Baby, I never desert you. Don't feel it right, not a one time thing. Easy with time, but it's so hard.
Aya Nakamura et Shansi A pour le titre « Dis-moi ».
France Inter. SOS Noël. Eva Rock.
Tu dois aller travailler ce soir ?
J'en ai pas envie.
Mais maman, c'est Noël.
Oh, raison de plus pour me rendre à l'hôpital. Certaines personnes se retrouvent vraiment seules ce soir-là.
Mais on a encore tellement de choses à faire. On doit accrocher les chaussettes et préparer le lait de poule. C'est pas vraiment Noël s'il n'y a pas tout ça.
Oh, chérie, Noël, c'est avant tout un esprit. C'est beaucoup plus que quelques traditions.
Pas si simple hein, de définir l'esprit de Noël. C'est un extrait de la série Chronique de Noël qui est disponible sur Netflix. Vous écoutez France Inter, nous sommes en direct et ce sera le cas toute la semaine avec ce guide de survie aux fêtes de fin d'année. SOS Noël, c'est pour vous et avec vous. On a un message Catherine Meurice qui va vous faire plaisir. C'est Guillaume qui nous a écrit sur l'application de Radio France et qui nous dit « Tous les ans, à chaque Secret Santa en entreprise, vous savez, cette petite fête où on offre un cadeau, où on, généralement le prix est assez minime, eh bien, il offre 13 à table, l'ouvrage que vous avez illustré cette année. C'est dans le budget et c'est toujours mieux qu'un énième mug pourri, non précise-t-il.
Ah, et il a bien raison. Eh bien, les Restos du Cœur vous remercie et c'est vrai qu'il faut penser.
Il faut poursuivre.
Il faut penser à tout, voilà, tous ces gens qui ne peuvent pas passer Noël et, parce que là, on critique Noël parce qu'on peut se le permettre. Mais
oui, exactement. Doute, mais je voudrais...
Quand on ne peut plus passer Noël, on se rend compte que ça peut nous
manquer. Voudrais vous lire un message de Holly qui nous dit j'ai toujours une appréhension sur cette période de Noël, courir après les cadeaux dans une consommation de masse, organiser les rencontres, manger, bref, bon voilà. Et bien cette année, je regrette de ne pas apprécier tout cela parce que je suis rentrée en soins intensifs neuro et je vais passer Noël allongée au CHU. Et c'est dans ces moments-là que l'on se rend compte que ce qu'on apprécie le moins peut nous manquer le plus. Merci Oli pour votre message. On vous embrasse très fort et puis on espère pouvoir vous accompagner toute la semaine avec nos sourires.
Oui,
on était
pas bien,
oui. Oui, avant Aya Nakamura, on était avec le sourire de Marie qui nous racontait ce troc de l'amitié. Alain Cabantous, quel petit objet vous avez chez vous, vous pourriez donner?
Alors, dans ce que disait Marie, c'était un objet qui avait une histoire.
Oui,
déjà,
hein. Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai, vous avez
pas
raison.
Un objet qu'on achète. Et donc, un objet personnel. Moi, j'offrirais bien un stylo avec lequel j'écris. Parce que j'écris au stylo, même si je saisis des textes par ordinateur. Mais voilà.
C'est un très beau cadeau.
Je ne sais pas.
En tout cas, c'est symbolique, oui. Et vous, Catherine Meurice?
Moi, je ne vais pas être surprenant du tout. Je vais dire un livre. Un livre. Ce sera toujours un livre. Voilà,
de votre bibliothèque,
pas de moi.
moi je suis
d'accord. Non, un livre de ma bibliothèque. J'ai parfois des livres en double, en triple que je garde d'ailleurs pour faire des cadeaux. Oui, parce que sans attendre qu'on le lise immédiatement, parce qu'en général ça marche pas. Il faut laisser les gens prendre le temps de lire les livres qu'on leur offre.
Est-ce que il y a un cadeau qui vous a marqué, que vous avez reçu, qui vous a marqué? Ça ne vous vient pas tout de suite? Ou un cadeau que vous avez offert, où vous avez ressenti une immense joie à l'offrir?
Non, ça ne me revient pas. Moi, je me souviens vaguement, j'étais complètement hystérique. Je voulais absolument un cheval à bascule en peluche. Voilà, je me souviens
que,
je l'ai eu.
Vous l'avez eu?
Non, après, peut-être un vélo. Non, si, voilà. Je pense
le
que
vélo.
Mon premier vélo, oui.
Mais je pense que les vélos, ça marque beaucoup. Ouais. Le premier vélo, souvent, c'est à Noël, hein, ou les anniversaires, mais souvent à Noël, et ça marque beaucoup. Demain, je vous le dis d'avance, on va parler des cadeaux. Donc, et chers auditeurs, si vous avez des souvenirs, des pires cadeaux, ou des plus beaux cadeaux, ou de ceux que vous avez offerts, ou que vous avez reçus, évidemment, vous pouvez d'ores et déjà laisser des messages sur l'application Radio France. Il y a un petit bouton qui s'appelle Réagir. Vous vous allez pouvoir laisser vos messages. On arrive à la conclusion de cette émission, déjà. On a appris que le sapin, c'est depuis toujours, mais que Catherine Morisson faisait avec les branchages de chez elle, que Noël était une fête très bruyante, et ça depuis toujours aussi, et qu'au Japon, on appelle ça la fête des amoureux. Et c'est une très belle dénomination qu'on pourrait garder, je trouve, en tout cas. Merci à vous toutes et tous qui avez participé à cette émission, et merci à vous deux. Alain Cabantous, je rappelle le titre de votre livre qui nous a permis de préparer cette émission, Noël, une si longue histoire, c'est chez Payot. Catherine Morisson, on se jette sur tous vos livres. Alors sachez que certains membres de cette équipe, Louise Tempero, pour ne pas la nommer, a indiqué votre album sur la liste du Père Noël. Voilà. Je la remercie d'ailleurs, Louise, pour la préparation de cette émission, ainsi que Étienne Quenel à la réalisation. À la technique ce matin, il y avait Gaspard Guy Bourget, et à la préparation, Lucie Grandet-Lavigne et Joseph Ascal, aidés par Pauline Lehmann. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la bande originale menée par Leïla Kaddour. Demain, on se racontera des histoires incroyables, mais aussi ce sujet délicat des cadeaux. Vous pouvez donc nous laisser déjà vos messages. Anne et sa fille franco-anglaise Ella l'ont bien compris.
Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir pendant la période de Noël ?
D'ouvrir les cadeaux et les lutins qui font plein de bazar et des bêtises.
Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ?
D'attendre, d'ouvrir les cadeaux quand tout le monde est au lit. Et moi, je suis réveillée. Mais j'ai envie d'ouvrir le cadeau. J'ai pas envie d'attendre.